Bonjour mes bien-aimés en Jésus-Christ. J'ai plaisir de vous retrouver ce jour pour qu'ensemble nous partageons ce moment de prière pour posséder la saison d'automne. Nous l'avons déjà fait par le passé. Nous avons ensemble partagé et prié pour posséder la saison d'hiver, la saison du printemps et la saison d'été. Dans le cadre des prières pour posséder les portes des saisons, nous avons déjà expliqué dans des enseignements précédents comment il était important de prier au temps convenable, de prier à ces moments précis et de prier aux portes des saisons pour pouvoir proclamer des choses positives pour la saison qui se présente à nous, pour cette période de temps, mais aussi en tant que fils, se manifester à la création pour pouvoir la réconcilier à l'Éternel Dieu le Père et pour la repositionner dans la perfection de son fonctionnement. Nous savons ces choses. Nous sommes rendus aujourd'hui, en ce mois de septembre, nous sommes rendu à la fin de la saison d'été et nous rentrons dans la saison d'automne. Et le début des saisons sont définis par des phénomènes spécifiques que l'on appelle les solstices et les équinoxes. En ce mois de septembre, nous sommes rendus aujourd'hui à ce qu'on appelle l'équinoxe d'automne. Avant de rentrer dans le contenu même de notre partage aujourd'hui, je vais vous inviter à placer ce moment devant le trône de notre Seigneur, de Dieu notre Père, d'invoquer l'Esprit de Dieu afin qu'il nous conduise, qu'il prenne contrôle de toutes choses. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors prions. Éternel Dieu de gloire, Papa, nous te disons merci. Merci au Père, parce qu'il t'a plu que nous soyons ensemble en ce jour encore réunis pour prier, comprendre ta parole et pour amener à nous, ô Père éternel, les révélations de la vérité que reflète ta parole. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce que tu es le créateur de toutes choses, ô Papa. Et nous venons au-devant de ton trône de grâce encore aujourd'hui. Nous prosterner, ô Père éternel, et nous consacrer de nouveau à toi, en Jésus-Christ notre Seigneur et Roi. Saint-Esprit de Dieu, viens et prends contrôle de toutes choses. Prends contrôle de nos corps et esprit. Prends contrôle de ce moment et parle par ma bouche. Enseigne-nous et conduis-nous dans la vérité de la parole de Dieu. Conduis-nous dans les actions agréables à Père. C'est toi qui donnes la sagesse, c'est toi qui rends intelligent. En Jésus-Christ notre Seigneur, Roi et Maître, nous t'avons ainsi prié. Amen. Équinoxe d'automne. Nous savons que par rapport à un plan vertical, le globe terrestre est incliné. Le plan qui traverse le globe terrestre dans sa verticalité est incliné par rapport à un plan imaginaire vertical. Et que la Terre, nous savons que la Terre tourne autour d'elle-même, en même temps qu'elle tourne autour du Soleil. Et que dans son parcours, elle tourne autour du Soleil dans la durée d'un an. Et on appelle cela la révolution de la Terre. Que tout le long de cette révolution autour de la Terre, et en tournant autour d'elle-même, le globe terrestre prend des positionnements qui varient. Et à des moments précis de sa révolution autour du Soleil, il y a quatre points, quatre zones précises qui sont ainsi saisies et sur laquelle Le globe terrestre a un positionnement particulier. Dans cette position, le globe terrestre reçoit d'une certaine façon les rayons du soleil. Dans deux positions à l'opposé l'un de l'autre sont des solstices, et dans les deux positions à l'opposé l'une de l'autre, dans la verticale, ce sont les équinoxes. Et en fonction de ces positions, on a choisi le passage de la Terre dans sa rotation à ces instants précis comme étant le début des saisons. Le terme équinoxe vient du mot latin aequus qui ça veut dire égal. Quand on parle des équinoxes, on parle d'une égalité. Et égalité entre les durées du jour et les durées de la nuit. Donc, lors d'un équinoxe, les deux hémisphères de la Terre sont orientés de façon égale par rapport au Soleil. Géographiquement, on dit que son positionnement est situé directement au zénith par rapport à l'équateur. Son plan de l'équateur est incliné par rapport au plan horizontal imaginaire que l'on appelle le plan de l'équateur céleste. C'est le plan qu'aurait pu avoir le plan de l'équateur de la Terre si le globe terrestre n'était pas incliné par rapport à l'axe du Soleil. Ces deux plans-là, au moment des solstices, ont atteint le maximum de leur inclinaison. Mais au moment des équinoxes, tout se passe comme si, au fur et à mesure que la Terre se déplaçait, elle se redressait. Elle se redresse et les deux plans, le plan de l'équateur, le plan réel, et le plan de l'équateur, dit le plan céleste imaginaire, se rapprochent et se rapprochent de plus en plus jusqu'à se confondre, c'est-à-dire au niveau des équinoxes. Tout se passe comme si le globe terrestre, l'axe du globe terrestre, s'était au fur et à mesure redressé et que tout le globe terrestre, au passage du zénith du Soleil, au passage de l'axe central du Soleil, se retrouvait complètement droit et complètement aligné avec l'axe du Soleil. À ce moment, tout se passe comme il y avait un équilibre parfait entre ces deux plans, entre la Terre et le Soleil. L'équateur terrestre a rejoint et ne fait plus qu'un avec l'équateur céleste et l'axe du Soleil. Et ce moment d'équilibre parfait va durer 33 heures, un jour et demi, pendant lequel tout va être dans un équilibre parfait. Et dans les équinoxes, que ce soit du printemps ou d'automne, il y a un équilibre, il y a une égalité dans la durée des jours et dans la durée des nuits. Et après la traversée de l'équinoxe, cet équilibre parfait qui s'était installé se défait parce que le globe terrestre n'a pas arrêté de tourner sur lui-même, ni arrêté de tourner autour du Soleil. Donc pendant ce temps, les deux plans, le plan de l'équateur réel et le plan de l'équateur céleste, qui s'étaient joints et s'étaient parfaitement alignés, recommencent à s'incliner dans le sens inversé. Ces plans recommencent à se séparer et les nuits vont recommencer à devenir un peu plus longues que les jours. Et cette différence entre les nuits et les jours va se poursuivre jusqu'à atteindre son maximum où la nuit sera la plus longue et le jour le plus court, au solstice d'hiver, donc à la fin de la saison d'automne. Alléluia. Cette porte, cette période marque le temps de l'ouverture de la porte de l'équinoxe d'automne et c'est la porte de la saison d'automne, d'une période spécifique, d'une période particulière où beaucoup de choses sont prévues sur le plan de la manifestation, du fonctionnement des éléments de la création, tant sur le plan naturel que sur le plan spirituel. Moi, je vous invite à ce que nous célébrons l'Éternel, que nous célébrons la création, que nous célébrons le Créateur pour la perfection de l'œuvre qu'il a faite, pour ce que nos yeux peuvent admirer, pour ce qu'il nous est donné de comprendre dans la perfection du fonctionnement de la création dans son ensemble. Nous devons louer l'Éternel. La parole de Dieu nous dit, priez au temps convenable. L'Éternel fait des choses merveilleuses. La création de Dieu est merveilleuse. Job nous dit dans son livre, Job 37 à son verset 16, Job s'interroge, moi je pense qu'il se parle à lui-même à ce moment, et il se questionne parce qu'il apprend dans la situation qu'il traverse à connaître et à voir vraiment la grandeur et la puissance de l'Éternel, du Dieu créateur de toutes choses. Il dit, sais-tu comment les nus conservent l'équilibre? Comment toutes ces choses que l'Éternel a créées peuvent être dans un équilibre parfait? Un équilibre parfait entre la terre, le ciel, le soleil et tout l'environnement. Il poursuit en disant, ce sont là les merveilles de celui dont la science atteint la perfection. Oui, Éternel, tu as une science qui atteint la perfection. Tu as créé les cieux et la terre dans une harmonie parfaite, Éternel Dieu de gloire, dans un fonctionnement parfait, en donnant à chacun, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, un rôle merveilleux et magnifique à accomplir. Célébrons l'Éternel qui fait les choses avec perfection. Célébrons-le. Dans le psaume 90, il est dit beaucoup de choses, nous allons lire en commençant par à son verset 6. Ah, le psaume 89 nous dit ceci: les cieux célèbrent les merveilles de l'Éternel. Qui est comme toi, puissant, ô Éternel? C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi. Le Tabor et l'Hermon se réjouissent en ton nom. Ton bras est puissant, ta main est forte, ta droite élevée. Et la justice et l'équité sont la base de ton trône. Ô Dieu, tu fais les choses, papa, dans une équité parfaite, dans une harmonie parfaite. Il poursuit en disant, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. La parole de Dieu nous invite à sonner de la trompette de l'Éternel aux portes des saisons, à sonner les trompettes de l'Éternel, aux portes des temps. Celui qui connaît le son de la trompette, la parole nous dit, il marche à la clarté de la face de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Célébrons l'Éternel. Je voudrais vous inviter maintenant à proclamer le psaume 148. Qui est une louange à la création, afin d'inviter toute la création à louer l'Éternel. Alléluia. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres. Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom est seul élevé, sa majesté au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Oh oui, Seigneur, tu es digne de louange et de proclamation. Tu es le créateur de toutes choses. Oh, à toi toute la science et la perfection. Oui, Père éternel, ta parole nous enseigne, ô Seigneur du Père Tout-Puissant. Nous obéissons parce que nous prions en temps convenable. Nous prions à la porte, Seigneur des saisons. Et en ce jour, à la porte de la saison d'automne, en ce jour d'équinoxe d'automne, ô Père éternel, nous te célébrons et nous te prions, ô Père éternel. Alléluia. Parce que nous voulons prendre possession de cette saison d'automne. Proclamez ta Seigneurie, ô Père éternel. Oh Dieu, béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Alléluia. Cette porte, phénomène d'équinoxe, marque le début de la saison d'automne. Elle va donc commencer en cette année 2014. La saison d'automne commence en ce jour, ce 23 septembre, à 2h29 minutes et 5 secondes, et va s'achever avec le solstice d'hiver qui marquera le début de la saison d'hiver et qui est prévu pour le 21 décembre 2014 à 23h01-03 secondes. Alléluia. Nous allons donc maintenant chercher les éléments de la saison d'automne, de ces 3 mois, de cette période-là, qui vont nous étayer, qui vont nous donner des points et des prières pour posséder cette saison, pour proclamer les bénédictions dans nos vies. Nous allons donc examiner cette période et cette saison sur le plan naturel, d'une part d'abord, puis sur le plan spirituel, et ressortir les points de prière, les éléments importants qui vont nous conduire dans les axes de prière que nous devons mener. Sur le plan naturel, la saison d'automne fait suite à la saison d'été. La saison d'été s'achève et c'était une saison, nous l'avons vu, une saison de croissance, une saison de maturité, une saison particulière de travail et d'entretien de ce qui avait été semé et qui devrait grandir. La création dans son ensemble a produit, elle s'est manifestée, elle s'est extériorisée, elle a produit des bourgeons, des feuilles, des fleurs au sortir de la saison du printemps. Et cette productivité-là a évolué tout le long de la saison d'été, bénéficiant de l'œuvre du soleil, de la sève nourricière de la terre, pour croître convenablement, pour donner du fruit. Et ce fruit doit mûrir. Donc, nous arrivons à la fin de la saison d'été avec une productivité qui se retrouve en un état particulier de son évolution. À l'entrée de l'automne, cette évolution, la création dans son ensemble, cette production a atteint un plein développement et en principe rentre dans son état d'équilibre avec l'ensemble de son milieu. Donc nous arrivons à au point de l'équinoxe de l'automne, à un moment où un équilibre doit se faire entre tous les éléments en place qui doivent conduire, qui doivent être en faveur de la maturité du fruit pour que ce fruit puisse être récolté dans les bonnes conditions. Donc dans cette saison d'automne, à cette partie principalement proche de l'équinoxe d'automne, nous sommes dans un temps de transformation. Un temps de transformation pendant lequel la production doit pouvoir se transformer en récolte. Il n'est pas évident qu'un fruit qui a été fait devienne une récolte. Parce que le fruit est formé et c'est d'abord un fruit vert, non mature. Et il doit passer par un processus de maturation pour pouvoir devenir un fruit mûr, mature d'abord, puis complètement fait, apte d'être récolté et apte d'être exploité. Donc il y a un processus de transformation qui, au moment de la fin de l'été et du début de l'automne, doit pouvoir être manifeste pour que la productivité se transforme en récolte. C'est un processus qui nécessite une action de grâce pour ça. C'est aussi un temps de transformation pendant laquelle l'on doit assister dans la productivité, on doit assister à un processus de transformation de l'eau en vin. Je m'explique. C'est un peu comme vraiment le processus des noces de Cana où l'Éternel, notre roi, le Seigneur Jésus, transforme l'eau en vin, transforme quelque chose qui est banane non exploitable pour la circonstance, doit transformer ça en vin, en quelque chose d'appréciable, en quelque chose de buvable, en quelque chose qui doit contribuer à la célébration, à la réjouissance. C'est important de noter comme ça, parce que à la sortie de l'été, le fruit est formé sur la plupart des arbres. Il n'est pas encore mûr. Le fruit est vert. Si le fruit est cueilli à ce moment-là, nous aurons, comme nous dit la Bible, un panier de figues vertes. Un panier de figues vertes est non comestible, pas agréable, ne contribue ni à l'alimentation, la bonne alimentation, ni au plaisir. Il grince les dents, comme la Bible le dit, il fait mal aux dents. Il faut un processus pour que le fruit vert se gorge de sucre, pour qu'il se passe un processus dans le fruit, c'est le processus de la maturité qui transforme les éléments, les molécules du fruit en concentré de sucre, en sucre, en saveur. Et ce fruit vert devient un fruit mûr qui est agréable et qui apporte de la douceur, qui apporte, qui devient nutritif pour le corps. Et c'est vraiment un processus de transformation de l'eau en vin. Et c'est aussi le même processus de transformation, parce que l'eau, c'est le symbole de la bénédiction. Mais le vin, c'est vraiment le symbole de la réjouissance, c'est le symbole de l'amour et de la joie. C'est le symbole de la récompense, en fait. Donc, la croissance du fruit est déjà une bénédiction. Depuis le printemps, avec les bourgeons, les feuilles, le fruit, la fleur, etc., qui a jailli de l'arbre, qui a jailli de la végétation, c'était déjà une bénédiction de l'Éternel. Plus les pluies de l'arrière-saison qui ont contribué à transformer et la fleur en fruit, c'est déjà une bénédiction. Mais cette bénédiction serait inachevée si ce fruit n'arrivait pas à maturité. Et c'est un peu ce qui doit se passer en cette saison, ce qui doit se passer en cette période d'équinoxe, l'équilibre qui doit s'établir pour qu'on puisse arriver à une bonne récolte. La saison d'automne aussi, surtout les premières périodes de la saison d'automne, c'est le temps de perfectionnement du fruit. C'est un temps de perfectionnement de ce qui a été libéré, de ce qui a été initié depuis le printemps, qui a été manifesté en été, C'est le temps du perfectionnement de cette chose. C'est le temps du perfectionnement de tout ce qui était comme l'œuvre de nos mains. Tout ce que nous avons semé, tout ce que nous avons produit, tout ce que nous avons créé, tout ce que nous avons façonné, tout le long du printemps et de l'été, doit pouvoir être concrétisé maintenant au début de l'automne. L'automne est une saison assez particulière. C'est la dernière des quatre saisons qui définissent un cycle. Mais c'est aussi la saison où tout est pris. On gagne ou on perd. Donc c'est une saison charnière et une saison très importante. Le perfectionnement qui doit se passer à ce moment-là, c'est le temps où il doit avoir une concrétisation des bénédictions que nous avons reçues. C'est aussi un temps où l'eau du fruit vert va devenir un suc de fruit mûr. C'est le temps où la semence devient la provision. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel Dieu notre Père est celui qui nous donne la semence. C'est vrai. Nous avons vu depuis le solstice d'hiver où les choses ont été préparées, ensemencées, qui ont jailli au printemps, où le travail a été mis en route pendant l'été. Vient maintenant le temps où nous devons avoir la provision. C'est un temps véritablement de patience. C'est un temps où seul les circonstances environnementales sont en œuvre. Et on doit faire preuve naturellement de patience. Pourquoi? Parce que tous les dés ont été jetés déjà. Les semences, le printemps, l'été sont écoulés. Le fruit même est apparu, on le voit. Mais le processus de la maturité ne dépend plus naturellement de ce que l'on peut faire. On ne te demande plus de sarcler, on ne te demande plus dans un champ de retourner, on ne te demande plus de s'aimer, on ne te demande pas de... Mais tu attends seulement le fruit du travail que tu as pris, le fruit du labeur que tu as produit. Et ce temps de patience-là, sur le plan naturel, n'a plus d'exigence en tant que tel. Elle est laissée tout simplement à la nature et à l'œuvre de la création. Mais sur le plan spirituel, justement, nous interpelle à une action spirituelle. Parce qu'à ce moment-là, tout est grâce. Nous le verrons tout à l'heure, sur le plan spirituel. C'est aussi une saison où est venu le temps de l'exaucement. C'est le temps de l'exaucement de toutes les prières qui ont été engagées. Depuis le solstice d'hiver, beaucoup de choses ont été mises en route, sur le plan naturel comme sur le plan spirituel. Beaucoup de choses ont été engagées, beaucoup d'actions ont été menées. Et voici venu, avec la saison d'automne, le temps de l'exaucement de ces prières-là. La parole de Dieu nous dit, j'aime beaucoup ce verset, en ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceraient la terre. La terre exaucera le blé, le moule et l'huile et ils exauceront Israël. Cela nous explique le processus de l'exaucement. Dieu déclare que quand il veut procéder à l'exaucement, il déclenche l'exaucement des cieux. Les cieux bénissent la terre par les pluies, par la rosée. Il déverse l'eau de bénédiction sur la terre. Les pluies de la première de l'arrière-saison, nous avons vu toutes ces formes de bénédiction. C'est les cieux qui déversent d'abord sur la terre. La terre les reçoit. Et ensuite, la terre, une fois bénie par les cieux, rentre dans leur processus de développement. Et quand la parole de Dieu dit que la terre exauce et le blé, le moult, l'huile, etc., c'est-à-dire tout ce qui est planté, toute notre semence, ce qui a été semé dans la terre, lorsqu'elle a été bénie par les cieux, elle se développe. Donc, elle exauce le moule qui, de la graine qu'elles étaient au départ, deviennent des plantes, deviennent des fruits. Et du fruit, ils deviennent même tout ce qui peut être transformé et utilisé. Et une fois que la terre exaucera le blé, le moût et l'huile, la parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, le blé, le moût et l'huile, eux, ils exauceront Jisraël. C'est qui Jisraël? C'est toi, c'est moi. Voici venu le temps de l'exaucement. Voici venu le temps que Jisraël soit exaucé par ce que la terre a produit après avoir été bénie. La saison d'automne aussi, c'est le temps de la récolte. C'est vraiment venu le temps de la récolte, le temps où l'on doit récolter ce que l'on a semé. L'on doit recueillir des champs, le fruit et de son travail, de sa semence. C'est le temps de la récolte. Celui qui n'a rien semé n'aura rien. Mais celui qui a pris la peine de semer, d'entretenir, de travailler son champ, doit pouvoir jouir de la récolte. Dans 2 Timothée 2 à son verset 6, il nous est dit, c'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de sa récolte. La récolte est quelque chose d'évident. Toute récolte est le résultat de l'action d'une bénédiction sur une semence par le pouvoir du Saint-Esprit, par le pouvoir de l'œuvre de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, l'un sème, l'autre arrose, mais seul l'Éternel fait croître. C'est un processus qui est divin, qui concourt à la croissance de ce que nous pouvons semer, certes. Mais celui qui a semé, celui qui a cultivé, qui a travaillé, a droit à une récolte. Dans la saison d'automne, c'est le temps de la récolte aussi. L'automne subit l'influence de plusieurs éléments, mais tous ces éléments arrivent et sont particulièrement en équilibre. Le soleil, lui, venu de l'été, il est en train de décroître. Après l'équilibre de l'équinoxe qui rend les durées des jours égales à la durée des nuits, nous basculons dans la durée des nuits qui devient de plus en plus longue et la durée des jours qui se raccourcit. L'intensité du soleil aussi baisse pendant ce moment-là. L'intensité du soleil baisse et cette baisse de l'intensité du soleil affecte le processus de la photosynthèse, qui était majeur pendant le mois d'été et qui rendait le feuillage vert. Et cette baisse du phénomène de photosynthèse entraîne des changements des couleurs des feuilles. La végétation change complètement. Et c'est un processus qui se déroule au niveau des feuillages, qui est lié à la baisse de l'intensité, lié au processus de vie de la photosynthèse, qui joue un important rôle dans la vie de la plante en général et la nutrition de la végétation, qui fait que les feuilles changent de couleur et du vert qui était dominant le reste de l'année en quelque sorte, le feuillage devient rouge, orangé, jaune, brun, marron, et on parle de la couleur d'automne en quelque sorte. Et ce changement de couleur pour les feuilles précède en quelque sorte son détachement de l'arbre. Le deuxième élément, c'est le tonnerre. Parce que l'automne est une saison où se mélangent et le tonnerre et le vent et la brume. C'est une saison assez particulière. Il y a beaucoup de tonnerres qui grondent pendant le mois, la saison d'automne. Et dans le livre d'Apocalypse, dans son chapitre 10, à partir du verset 3, on parle beaucoup du tonnerre. Et ça nous amène à comprendre, dans le langage spirituel, c'est quoi le tonnerre. Le tonnerre n'est pas qu'un bruit. Le tonnerre, la parole nous dit, c'est une voix. C'est une voix. Quand le tonnerre gronde, le tonnerre émet un son qui est audible. Elle émet des paroles, des ordres, des instructions qui sont très claires. Lorsque l'apôtre Jean nous décrit dans sa vision d'Apocalypse, comment est-ce qu'il voyait ce qui se déroulait dans les cieux, il dit qu'à moi il a entendu le tonnerre, qui a précédé l'éclair, les voix, etc. Et que comme il était en train d'écrire, parce qu'il avait reçu de pouvoir révéler ce qu'il avait vu dans sa vision, il voulait écrire même de façon claire ce qu'il avait perçu, entendu, lorsque le tonnerre avait grondé et ce qu'il avait dit et ce qu'il était en train de dire. L'ange lui a fait signe de ne pas noter ce que le tonnerre lui avait dit, parce que c'est encore dans les temps où ces choses ne seront pas révélées. Alléluia. Donc lorsque le tonnerre gronde, le tonnerre est en train de s'exprimer. La voix de l'Éternel est en train de parler à la création. Le tonnerre ne s'exprime pas pour nous. Le tonnerre ne gronde pas pour nous. Parce que nous les humains, nous n'avons pas la clarté. Non, pas la clarté. Il faut se trouver dans le privilège dans lequel l'apôtre Jean s'est retrouvé dans sa vision pour pouvoir saisir la quintessence de ce qui est dit dans ce langage-là. Mais quand le tonnerre parle, c'est quand l'Éternel parle à sa création. L'Éternel s'exprime à sa création. Et la création entend ce que le tonnerre dit, parce qu'il émet un ordre, parce qu'il émet à ce moment-là des instructions précises. Souvenez-vous tout à l'heure, j'ai dit que nous traversons, lorsqu'on est dans la saison d'automne, nous sommes dans une saison de transformation, où par le processus de la grâce, la productivité doit devenir récolte. Dans un processus de transformation, où l'eau doit devenir vin, où l'eau qui est dans le fruit va se transformer en sucre. C'est un processus qui est au-delà de notre entendement. Et c'est un processus qui est divin. Et le tonnerre se met en branle. Et pendant l'automne, beaucoup de tonnerre, la voix du tonnerre se lève pour donner ordre à la création, pour agir à la création, pour commander à la création. Tout comme l'Éternel Dieu parle à la création pour faire jaillir la terre du sein des eaux, l'Éternel parle à la création pour que ce processus se déroule dans la création. Alléluia. C'est un temps important, mes frères et mes sœurs. C'est une saison assez particulière qu'il faut saisir et proclamer dans ce sens ce qui doit être fait. Que nous soyons, c'est vrai, dans la patience, mais aussi spirituellement, dans un temps de prière pour que ce processus divin se déroule, pour que ce processus divin se matérialise et pour que cette maturité, pour que ce miracle se fasse dans nos vies, dans ce que nous attendons. Nous devons être spirituellement engagés dans ce processus, être en communion avec et la création et notre Seigneur pour ce processus, dans le nom puissant de Jésus. Dieu parle à la création par les éléments, par le tonnerre, par les éclairs, la grêle, les neiges. Quand nous lisons au niveau de la Bible, nous nous rendons compte dans cela. Job nous parle clairement de ce processus. Dans l'Apocalypse aussi, on nous parle clairement de ce processus-là. Et dans le psaume que nous avons lu tout à l'heure, nous avons vu que la grêle, que lorsque nous louons la création, il nous est dit clairement ici que les tonnerres, la grêle, le feu, la grêle, les neiges, les brouillards, les vents impétueux exécutent les ordres de l'Éternel pour pouvoir accomplir dans la nature la volonté de Père. Amen. En automne, le tonnerre tonne pour déclarer à la création les instructions de transformation, les instructions d'exaucement, les instructions de productivité d'un bon fruit. Alléluia. Et il existe, Apocalypse nous le dit aussi, il existe sept tonnerres, tout comme il existe sept esprits de Dieu. Amen. Et chaque tonnerre, chaque façon, chaque expression de la voix de l'Éternel est en relation comme ça avec un esprit de Dieu manifesté. Alléluia. Il y a un équilibre parfait entre le soleil, donc le tonnerre, et le troisième élément, c'est le vent. Le troisième élément, c'est le vent. Le vent, dans la saison d'automne, a un rôle assez particulier de jouer. Le vent va faire tomber les feuilles de l'arbre afin de pouvoir débarrasser l'arbre de tout ce qui est futile. Et ainsi permettre à la végétation de pouvoir se préparer à rentrer dans cette phase de mort afin de pouvoir renaître de nouveau pour une nouvelle vie. C'est important. Nous savons que la saison d'automne, c'est une saison où les arbres vont perdre leur feuillage, où la végétation va changer de couleur, prendre une couleur brune, presque de mort, où les arbres vont complètement se dénuder, où tout va se dérouler comme si la nature entrait dans un état de mort. Tout à l'heure, nous avons vu que les feuilles changeaient de couleur. Il se passe sur le plan physiologique un processus assez particulier. Lorsque le soleil décline, le processus de la photosynthèse qui produit la chlorophylle qui rend les feuilles vertes va baisser. Moins il y a de soleil, moins ce phénomène, ce processus de photosynthèse est actif. Et moins elle est active, moins la chlorophylle est produite. Donc si la chlorophylle qui est contenue dans les feuilles et qui la rend verte décroît, diminue dans les feuilles, l'effet de masque, parce que la présence de la chlorophylle verte donne une couleur dominante à la feuille, ce qui fait que tous les autres éléments, quelle que soit la couleur qu'ils ont dans la feuille, n'est plus visible parce que le vert est une couleur dominante, c'est la couleur de la vie. Mais lorsque cette couleur diminue, lorsque cette substance décroît dans la feuille, la couleur verte diminue. Et si la couleur verte diminue, cela laisse apparaître les autres pigments qui sont dans la feuille, comme les caroténoïdes, ou font apparaître d'autres éléments qui donnent la couleur rouge à la feuille. Ça, c'est un premier processus. Le deuxième processus, c'est que lorsque la saison d'automne passe, pendant la phase d'équinoxe, il se passe quelque chose de particulier dans la feuille. L'arbre produit comme des bouchons de liège. Sur chaque bout, lorsque nous étions dans la saison du printemps, l'arbre avait produit des bourgeons. Et ces bourgeons avaient traversé l'hiver. Et au moment du printemps, c'est ces bourgeons-là qui ont donné des feuilles. Et c'est important comme processus. Si le bourgeon est mort, il n'y aura pas de feuille. Si le bourgeon a résisté, il y aura une feuille. Et de la feuille repartira la vie qui donnera la fleur, ainsi de suite. Dans le même processus, en la saison d'automne, ce qui se passe, c'est que dans les mêmes endroits, au niveau de chaque feuille, là où une feuille est en connexion avec une branche, la branche sécrète fabrique comme un bouchon de liège qui vient obstruer les canaux qui connectent la feuille à l'arbre, qui favorise les canaux qui permettent que le sucre, la sève qui circule dans l'arbre passe dans les feuilles et lui apporte les éléments nutritifs nécessaires. Donc, il se passe un phénomène qui fait un bouchon à ce moment, à ce niveau-là, qui donne un bouchon de liège au niveau de la feuille. Ce qui fait qu'au niveau de la feuille, il n'y a plus de circulation. Ce qui était déjà dans la feuille reste dans la feuille et ne peut plus être évacué ni consommé. Et c'est ainsi que le peu de soleil qui reste continue à agir et à produire des effets de photosynthèse. Et dans ce processus de photosynthèse, il se déroule une fabrication de substances nutritives dans la feuille. Mais cette substance nutritive est fabriquée dans la feuille, logiquement, pour être déversée dans le tronc, pour nourrir la sève entière. Mais là, si la feuille, le bouchon de liège empêche la circulation, ça veut dire que cette substance nutritive reste dans la feuille. Et lorsqu'elle se concentre dans la feuille, elle donne des pigments qu'on appelle les anthocyanes, des pigments rouges. Et c'est la présence de plus en plus abondante de ces pigments dans la feuille qui les rend d'un rouge brun. En même temps que le vert de la chlorophylle disparaît. Cette substance nutritive reste dans la feuille. Mais la feuille qui n'est plus nourrie ou enrichie par la tige va être soumise au vent. Et le vent qui va souffler va simplement le détacher de l'arbre. Et c'est ainsi que les feuilles des arbres en automne vont toutes tomber. Mais comme le Seigneur fait les choses avec une harmonie et une perfection infinie, chaque feuille va tomber de l'arbre, enrichie en substances nutritives. Et c'est ainsi qu'une fois en contact avec le sol, elle va pouvoir servir de substance nutritive au sol. C'est un processus, mais elle va être détachée de l'arbre. Et le processus, le fait qu'elle soit détachée de l'arbre, c'est un processus de survie aussi. Parce que l'arbre ainsi ne pouvant plus tirer ou de pouvant tirer de moins en moins des substances nutritives du sol dans le mois d'automne et ne bénéficiant plus des feuilles comme moteur de transformation, l'arbre n'aura plus une sève suffisamment riche pour nourrir l'arbre dans son entièreté. Donc il faut qu'elle se dépouille, il faut qu'au cours du mois de la saison d'automne, l'arbre se dépouille de tout ce qui est superflu. L'arbre se dépouille de tout ce qui n'est pas nécessaire à la survie. L'arbre se dépouille de tout ce qui est élémentaire pour ne pouvoir se concentrer que sur ses fonctions vraiment vitales et sur ses fonctions de survie parce qu'il se prépare à traverser véritablement la saison d'hiver. Alléluia. Le quatrième élément qui doit être en équilibre, c'est la brume. La brume ou le temps nuageux. Pendant l'automne, le temps dans son ensemble est un temps toujours nuageux, beaucoup de brouillard. Le mot brume ou le mot brouillard sont deux mots qui viennent d'une racine commune, du mot kata, qui signifie offrir un sacrifice d'odeur agréable. Offrir un sacrifice d'odeur agréable. Brûler de l'encens. Faire une offrande sur l'autel des parfums. Le psalmiste nous disait dans le psaume 126, au verset 6, que celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte les gerbes. Le temps de la brume, c'est à la tombée du jour, le temps du soir. C'est le temps de l'offrande. Le temps où de la journée, le moment de la journée, où on va faire l'offrande de la journée. Tout comme à la fin du jour, la saison d'automne, c'est la fin d'un cycle annuel. C'est le temps de l'achèvement, le temps du résultat, le temps vraiment de l'offrande, où on recueille sa récolte, mais on va vers l'Éternel pour recueillir comme ça. Faire offrande parce que on a reçu de l'Éternel de grandes bénédictions. Amen. Cette brume et ce brouillard qui est présent dans la saison d'automne marque aussi justement ce temps-là. Parce que c'est le temps où l'on doit ramener vers l'Éternel une part de ce que nous avons reçu. Alléluia. Il y a un équilibre parfait sur tous ces éléments qui rentrent en ligne de compte. Les choses ne sont pas toujours seulement naturelles. Ce que nous voyons de nos yeux se manifester de façon naturelle répond à un processus spirituel vraiment profond. Et il est important de comprendre la signification de tous ces temps afin de pouvoir ouvrir notre esprit, ouvrir notre cœur et exprimer comme ça à l'Éternel Dieu notre Père, notre gratitude, ou être véritablement en phase avec le processus qui est en cours